Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
How dare you!
1, 2 et 3 degrés! C'est un crime contre l'humanité!
Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Chaud sa mère de l'année, l'émission sur tout ce qui concerne l'environnement et le changement climatique. Aujourd'hui, je suis avec Elsa, étudiante en Sciences Po à Lyon 2 et bénévole dans l'association Pan Marrakech au Maroc, et Elias, étudiant en droit à Lyon 2 qui a grandi au Maroc. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Nous allons parler de la situation des animaux errants au Maroc, des violences qu'ils subissent et le contexte sociétal dans lequel ils s'inscrivent. Elsa, pourrais-tu me dire que fait l'association concrètement ?
On est une association de protection de la nature et des animaux. Donc on a différents axes de travail. Tout d'abord les TNVR, c'est le fait de prendre un animal qui vit dans la rue, de le stériliser et de le vacciner avant de le relâcher donc dans son lieu de naissance. On fait aussi des sauvetages pour des chiens qui sont blessés, mal en point, qui ne peuvent plus vivre dans leur quartier à cause de la fourrière, ou alors pour des chiots. Dans l'association, on a des chiens, des chats, des ânes, mais aussi des chevaux. On donne aussi des aides au niveau des soins et des croquettes pour les propriétaires qui seraient trop pauvres. Et enfin, on met les animaux à l'adoption, tant au Maroc qu'à l'international, et on organise voilà, tous les départs, etc. Notre deuxième gros axe d'étude, c'est l'éducation. En fait, on s'est rendu rapidement compte que beaucoup de Marocains craignaient les animaux, et notamment les chiens, à cause de la rage et d'accidents graves qui se sont passés au cours de ces dernières années. Et même si la compassion envers les animaux, elle progresse, elle reste quand même freinée par des tabous religieux et culturels. On essaie d'éduquer en fait sur ces tabous pour les dépasser et pour permettre d'avoir une sorte de symbiose entre l'animal et l'humain.
Ok, merci. Et comment l'association aide les animaux errants en particulier ?
Bah du coup, notre plus gros travail vis-à-vis des animaux errants, c'est vraiment les sauvetages, les TNVR et les mises à l'adoption. Parce que en fait, souvent, on reçoit des appels à l'aide de personnes qui ont vu tel ou tel animal blessé dans leur quartier, qui n'ont souvent pas les moyens de l'amener au vétérinaire, et du coup, on fait les soins. Et selon le caractère de l'animal, s'il est plus ou moins sauvage, ou si au contraire, il est très proche de l'homme, dans ce cas-là, on essaie de le garder pour le mettre à l'adoption. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un animal qui est adopté au sein de notre association, bah, c'est un animal qu'on peut récupérer en plus. Et du coup, c'est vrai que ça nous aide beaucoup d'avoir ce système d'adoption qui est disponible tant au Maroc qu'à l'international.
Elias, as-tu l'impression que les chiens sont plus concernés par les violences que d'autres animaux ? Et quelles sont des possibles raisons pour ça ?
Effectivement, j'ai remarqué que les chiens sont plus souvent victimes de violences que d'autres animaux errants au Maroc. Et cela s'explique par les idées reçues ou à des croyances mal comprises. D'abord, il y a ce stéréotype universel qui est que le chien, à cause de sa taille, de son gabarit ou de son utilisation dans les milieux militaires, policiers ou douaniers, il est parfois perçu comme un animal agressif et dangereux. Ensuite, pour les questions de croyances, et c'est encore plus frappant au Maroc par exemple, il peut arriver que si vous arrivez chez quelqu'un avec votre chien, ou même si quelqu'un vient chez vous et qu'il voit un chien à la maison, tout de suite il va vous dire « le chien est un animal impur » ou « il ne faut pas le faire entrer dans la maison ». Mais en réalité, dans le livre saint des musulmans, il n'est mentionné nulle part que le chien est impur ou détestable. Au contraire, il est même cité comme un animal loyal, paisible, et il n'y a aucune connotation négative à son sujet. Pour finir, cette idée d'impureté des chiens vient en réalité des traditions prophétiques, mais il faut comprendre que cette présumée impureté du chien s'inscrit dans un cadre de rituel de prière, et non dans un sens moral ou éthique. Et donc la religion de 98% des Marocains, à laquelle le peuple est énormément attaché, ordonne à chaque être humain de faire preuve de respect, de compassion et de tendresse envers tous les animaux.
Pour rebondir un petit peu sur cette idée, c'est vrai qu'il y a quand même un regard vachement négatif sur les chiens au Maroc. Et en fait, c'est justement comme ça que j'ai trouvé l'association dans laquelle je suis bénévole. En fait, il y a 2 ans, quand je suis arrivée au Maroc pour la première fois dans le cadre d'un bénévolat, j'ai trouvé une petite chienne dans la rue qui avait environ 1 mois. Sa maman avait été tuée par la fourrière et en fait, personne s'en occupait parce qu'on considérait qu'elle était impure et que c'était tout à fait normal de la laisser mourir seule, bah, littéralement de faim. Et cette association, je l'ai contactée parmi une multitude d'associations qui existent sur Marrakech. Et en fait, c'est la seule à m'avoir répondu par la favorable. Parce qu'en fait, il faut savoir que les associations évitent de prendre des chiots parce qu'il y a plein de maladies infantiles chez les jeunes chiots, comme par exemple la parvo. Et donc aujourd'hui, cette petite chienne qui s'appelle aussi Elsa est à l'adoption, voilà, à l'association. J'ai vraiment commencé à rentrer dans le bénévolat de façon plus durement cette année quand j'ai trouvé trois chiots de nouveau au bord d'une grande route. Leur maman avait été tapée par une voiture. J'ai une nouvelle fois contacté l'association qui a accepté de les prendre et du coup là j'ai décidé que je voulais faire plus pour eux et de me lancer dans la communication de l'association et je suis aussi co-responsable du crowdfunding.
Pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier une association au Maroc plutôt qu'une association similaire en France ?
Alors moi j'ai anciennement été engagée en France, donc durant près de 3 ans, de mes 10 à mes 13 ans, j'ai été bénévole tous les week-ends à la SPA de ma ville. J'ai même adopté là-bas un chien, mais en fait je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un problème de suivi, un surplus d'animaux dans les refuges, qui faisait qu'il n'y avait pas forcément un suivi qui était très clair, et pas forcément un suivi des adoptants ou une aide envers les adoptants. Et donc c'est vrai que je me suis vachement détachée des refuges en France, même si je continuais quand même à essayer un peu de faire de mon mieux vis-à-vis des animaux. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un rôle important au sein des associations, surtout quand on est jeune. Voilà, moi j'ai 18 ans, donc j'avais surtout le rôle d'aller promener, au pire de nettoyer les box, mais j'avais pas un rôle qui me donnait l'impression d'être importante, d'avoir vraiment de changer la donne. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert, en faisant un petit peu des recherches, une première association sur les réseaux sociaux. Ça m'a donné envie d'aider véritablement, de m'impliquer tous les jours. Et en même temps, voilà, j'avais envie un peu de découvrir le pays et la culture marocaine. C'est dans le cadre de cette première rencontre avec l'association que du coup j'ai rencontré Paola, qui est la marraine de l'association PAN. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour cette association, pour comment elle fonctionnait et pour les gens qui travaillent là-bas, qui sont tous adorables. Puis aussi pour les animaux, parce qu'il y en a quand même 4 là-bas que j'ai sauvés et que voilà, actuellement j'adopte aussi un chat là-bas que je vais bientôt aller chercher. Donc c'est vraiment une histoire personnelle vis-à-vis d'eux, même si je n'oublie pas l'importance de donner mon temps aussi dans les refuges français.
Elias, tout à l'heure tu nous as parlé de l'idée de l'impureté des chiens au Maroc. Quel est le sentiment général des citoyens et citoyennes vis-à-vis des animaux errants ?
Le sentiment général exprimé de la part des citoyens marocains et marocaines vis-à-vis des animaux errants s'est intensifié surtout en juillet 2025, après le nouveau projet de loi. Le sentiment général ressenti était l'indignation. Beaucoup de citoyens ont dit que la mesure d'interdire de nourrir ou soigner un animal errant sans autorisation était complètement absurde, voire immorale. Ils estiment que cela criminalise la compassion. Sur les réseaux sociaux, le débat était au centre des préoccupations tout au long du mois de juillet. Les citoyens et citoyennes dénoncent une brutalité des lois. Selon eux, ce sont les personnes les plus démunies ou les plus engagées qui aident les animaux dans la rue et la loi les condamnerait. Mais comme tout sujet à débat, il y a eu des échos positifs, souvent conditionnels. Certains citoyens saluent l'idée de donner un cadre légal afin de lutter contre les actes de cruauté et l'abandon.
Là, tu as parlé du projet de loi de juillet 2025. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est exactement ?
Pour revenir un petit peu sur le droit des animaux au Maroc, il faut savoir donc 2-3 choses. Déjà, les animaux, ils ne sont pas reconnus comme des êtres sensibles, contrairement par exemple à la France. Et il y a eu quelques textes anciens, comme par exemple Dahir de 1977, ou certaines lois, mais c'était surtout des lois de santé publique sur la prolifération des maladies par les animaux, mais aussi des lois sur comment en fait être propriétaire d'un animal, mais il n'y avait pas du tout l'idée du bien-être animal. Et là, en juillet 2025, un projet de loi, donc 1925, a vu le jour pour encadrer en fait la gestion des animaux errants à travers du coup le TNVR, comme je vous le disais, avec notamment des centres pour recueillir, soigner et relâcher les animaux errants, mais aussi des sanctions contre les négligences ou maltraitances. Et enfin, du coup, pour revenir voilà, à ce que disait Elia, cette interdiction qui a été un petit peu mal perçue autant au niveau local qu'international, d'interdire en fait de nourrir ou de soigner les animaux errants sous peine d'une amende. Cette loi, elle va aussi essayer de donner des fonds aux associations pour qu'elles puissent, elles, faire les TNVR en aide en fait à ces centres qui y sont créés. Mais c'est vrai que du coup, cette loi, elle a quand même pas mal de critiques, notamment par le fait qu'il y ait très peu de centres agréés, très peu de vétérinaires formés, mais aussi que malgré l'interdiction officielle des politiques marocains, les communes, elles continuent à gérer les animaux errants par l'empoisonnement ou l'abattage. Et souvent, l'argent donné aux communes pour les associations, nous, on ne les perçoit jamais. En fait, elle disparaît entre l'État et nous. Il y a une corruption assez importante à ce niveau-là.
Pour parler du positionnement du gouvernement marocain face aux violences faites aux animaux errants, il est important d'évoquer l'avant-projet de loi datant du 10 juillet 2025. Avant juillet 2025, aucune loi claire n'encadrait la gestion des animaux errants, spécialement les chiens. Ce sont les communes locales qui étaient, elles, sous la tutelle et qui sont toujours sous la tutelle du ministère de l'Intérieur qui géraient la situation des animaux errants. Ces communes en question avaient le droit, via des circulaires locales, d'organiser des campagnes d'abattage pour des raisons de sécurité publique. Et il ne faut pas nier que ces campagnes d'abattage étaient souvent réalisées par des tirs ou l'empoisonnement. Et donc, selon moi, ce flou juridique qui a duré des années est dû à l'inaction, en quelque sorte, des instances politiques du pays, précisément le gouvernement et le Parlement. Comme on a tous pu le voir dans les médias occidentaux, les associations locales et étrangères ont accusé le Maroc d'abattage massif. 3 millions d'abattages depuis 1956, plus une commande supplémentaire de 3 millions de doses de poison en 2023 et 2024. Mais comme on le sait, dans une affaire d'opinion publique, il existe toujours des allégations contestées. Dans un article du TV5 Monde, il est dit mot pour mot que les autorités marocaines réfutent ces accusations, affirmant au contraire prendre des mesures pour protéger les animaux et que l'État aurait investi près de 22 millions d'euros pour construire des dispensaires comme celui près de Rabat, où environ 500 chiens ont été traités cette année. Depuis l'adoption de la méthode TNVR en 2019, le nombre de fourrières et de dispensaires animaliers a considérablement augmenté, avec une vingtaine de nouvelles structures en cours de construction et un projet de loi 1925 sur la protection des animaux errants qui est en examen par le Parlement marocain.
Je vais me permettre de rebondir un petit peu sur ça et surtout sur les chiffres donnés parce que voilà, en tant qu'association sur le terrain, nous on a un tout autre regard. Donc effectivement, ce chiffre qui est un petit peu ressorti au niveau des journaux, des grosses associations et du Parlement européen, en fait il est sorti du fait que l'État marocain aurait, selon certaines sources, acheté 3 millions de doses de poison dans le but de se lancer dans une grosse campagne des nettoyages des rues, comme ils appellent ça. Donc c'est vrai que ce chiffre, il est un petit peu controversé parce que on n'est pas sur une certitude, c'est des sources non officielles qui l'ont mis en place et le gouvernement surtout réfute cette idée. Mais par contre, là où il faut être très clair, c'est que même si on oublie cette idée des 3 millions, officiellement il y a plus de 300 000 chiens qui sont tués par an dans les rues au Maroc, que ça soit par l'empoisonnement, que ça soit par balle ou que ça soit justement amené dans ces fameux centres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur ces centres créés donc par l'État marocain, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, dans les refuges, les centres mouroirs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer des animaux dans la rue, donc surtout des chiens, mais aussi des chats, qu'ils vont entasser dans des espèces de cages, des fois à plusieurs vingtaines, et en fait, ils ne vont donner aucun soin, aucune nourriture, et les animaux finissent comme ça par mourir de faim et de soif, en fait. Et on a pas mal quand même de témoignages de personnes qui ont décidé d'appeler la commune, soit par pure méchanceté, parce que ça ne leur plaisait pas que les animaux soient là, soit des fois par volonté de bien faire, en espérant que celle-ci, par exemple, les fasse stériliser et vacciner, et en fait, ils n'ont plus eu aucune nouvelle de ces animaux. Donc du coup, je pense qu'il est important quand même de préciser que effectivement, ce projet de loi, sur le papier, c'est une bonne chose, si on fait l'exception du fait que les gens ne pourront plus nourrir et soigner les animaux. Mais c'est vrai que nous, voilà, au niveau des associations, on est quand même assez inquiets de la création de ces centres mouroirs, de cette soi-disant volonté du gouvernement d'organiser des TNVR, alors que ça fait des années qu'on demande de l'argent du gouvernement pour pouvoir les organiser nous, et qu'en fait, on nous le refuse parce que ça coûte moins cher de tuer. Donc on a un peu l'impression que c'est surtout une réaction un peu voilée vis-à-vis des critiques internationales et une manière de rassurer les gens.
Là, tu nous as parlé pas mal des violences faites aux animaux errants au Maroc. Comment cela est impacté par le fait que le Maroc se prépare en ce moment pour la Coupe du Monde en 2030 et la Coupe d'Afrique l'année prochaine ?
Du coup, c'est les critiques internationales avec ces chiffres de 3 millions qu'on peut souvent voir dans la presse. C'est notamment lié à cette Coupe du Monde et à cette CAN 2024-2025. Et c'est vrai qu'il y a une volonté en fait du gouvernement de rendre les zones urbaines plus belles et plus sûres pour les visiteurs. Et donc du coup, forcément, ça passe par l'empoisonnement, l'abattage et la fourrière. Et en fait, il y a eu une réaction assez forte, notamment cet été, de la FIFA, mais aussi du Parlement européen et des Marocains. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'a été créé, en tout cas, le projet de loi de juillet 2025. Pour illustrer ça, ça fait du coup 2 ans, comme je vous disais, que je vais au Maroc. Et en fait, l'année dernière, j'ai loué dans une résidence où il y avait une meute de chiens errants avec 2 chiots. Cette meute, je la nourrissais tous les jours. C'était des chiens qui étaient très gentils, très câlins, qui se laissaient très facilement approcher et caresser. Et en fait, après mon départ, en début septembre 2025, j'ai appris que la fourrière était passée. Et en fait, ils ont empoisonné ces chiens et notamment les 2 bébés. Et du coup, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a pu entendre dans les journaux, avec le gouvernement qui a promis et interdit l'abattage des chiens d'ici le fait que la loi soit adoptée. Alors qu'en fait, on voit bien que voilà, soit c'est qu'ils reçoivent des ordres officieux, soit c'est que les communes en fait n'en font qu'à leur tête. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que l'abattage et l'empoisonnement ne s'arrêtent absolument pas, malgré une volonté de la population et de certaines personnes essayer de protéger au mieux les animaux. Et là, au refuge, par exemple, il y a une semaine, on a reçu une petite chienne que sa gardienne a déposée parce que la fourrière passait assez régulièrement pour attraper des chiens. Et en fait, elle a réussi à le sauver à temps, mais ne pouvait pas la garder chez elle, habitant en appartement. Et du coup, on l'a récupérée parce qu'on savait que voilà, la prochaine fois, elle allait sans doute être attrapée par la fourrière et après être amenée dans un de ses centres mouroirs. Il faut quand même faire vachement attention avec les promesses du gouvernement. Et nous, en tout cas, on ne les voit pas du point de vue associatif.
Personnellement, lors de ma dernière visite qui a duré 4 mois, j'ai vu énormément d'animaux errants et j'ai aussi observé de tout, des comportements admirables et d'autres inacceptables. Ce qui est réellement désolant au Maroc, c'est que c'est plus une question d'éducation, de valeurs et de conscience sociale, parce qu'on peut rencontrer des gens qui font preuve d'une incroyable compassion envers les animaux et à l'inverse, d'autres qui se montrent totalement indifférents, voire cruels. Le véritable enjeu aujourd'hui qui se pose pour le gouvernement marocain, c'est le manque de civisme et d'éducation. Tant qu'on ne transmettra pas le respect du vivant, les valeurs de bienveillance, la responsabilité et l'empathie, peu importe les lois, aucune d'elles ne pourra vraiment changer les choses. Le problème des animaux errants au Maroc, ce n'est pas seulement un problème juridique ou politique, c'est un problème profondément humain et social.
Et toi, Elias, tu as grandi au Maroc? Comment tu as perçu la situation des animaux errants sur place ?
Aujourd'hui, ma perception personnelle que j'ai de la situation, c'est tout simplement la tristesse. Depuis plusieurs années, les autorités locales ont abattu un très grand nombre de chiens errants. Ces pratiques ont choqué beaucoup de citoyens, mais aussi réveillé les associations locales et internationales. Ça a permis de dénoncer l'absence de véritables programmes et de lois pour encadrer cette situation. Pourtant, on le sait, le recours à l'abattage a été prouvé par plusieurs études comme un acte cruel, mais aussi traumatisant, surtout pour ceux qui en sont témoins. Mais il faut quand même reconnaître les efforts récents du gouvernement marocain, qui affiche une réelle volonté d'amélioration à travers la mise en place d'un cadre juridique clair, qui cherche un équilibre entre sécurité publique et bien-être animal, à condition qu'il y ait de la sincérité et de l'engagement réel de la part de tous les acteurs impliqués dans cette situation.
Elsa, toi en tant que bénévole dans l'association PAN Marrakech, quelles possibilités et droits ont les associations vis-à-vis de cette situation violente et urgente ?
Malheureusement, c'est très compliqué pour nous parce qu'il y a énormément de chiens. On compte plusieurs millions de chiens au Maroc, sans parler des chats qui se reproduisent extrêmement vite. Et en fait, on n'a aucun moyen parce qu'on ne reçoit aucun argent de l'État ou d'associations internationales. Actuellement, sur toutes les associations que j'ai pu voir, j'en connais que 2 qui ont un petit financement, soit notamment de l'association Brigitte Bardot, soit de l'État. Mais en fait, ce n'est pas du tout assez face au nombre de demandes qu'on reçoit. Moi qui m'occupe par exemple des réseaux sociaux, j'ai tendance à recevoir 2 à 3 demandes de prise en charge par jour qui sont plus ou moins urgentes. On essaye de faire au mieux, mais quand on n'a pas assez de moyens, on ne peut pas non plus tous les prendre. C'est pas non plus acceptable de ne pas leur donner des bonnes conditions de vie. Il y a aussi un peu cette difficulté à être reconnu d'intérêt public. Avec, encore une fois, le fait qu'il faille connaître quelqu'un au sein des instances qui peuvent reconnaître ces associations. Du coup, il faut vraiment avoir tout un système de relations pour pouvoir véritablement réussir à avoir un quelconque financement. Et ensuite, on a bien évidemment le gros problème de la corruption des communes qui ne redistribuent pas l'argent du gouvernement, qui en fait les mettent on ne sait pas trop où. Mais donc nous, on n'a absolument rien. Donc on survit par les dons des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et certaines fois par des petits groupes comme par exemple on a l'Union Bouddhiste qui nous aide beaucoup parce qu'ils sont vachement dans l'éducation des enfants, etc. Et donc on a comme ça des petits partenariats. Mais après il faut quand même préciser qu'il y a quand même un soutien populaire qui existe avec des gens qui nous contactent, qui essayent de nous aider au mieux. Et du coup j'aimerais vraiment alerter sur le fait... On a tendance parfois à voir sur les réseaux sociaux des refuges qui montrent vraiment les Marocains comme des monstres, qui montrent les pires cas de maltraitance qui existent, avec des images chocs, pour avoir le plus de vues possible et pour avoir le plus de dons possible. Mais c'est pas la réalité sur le terrain. La plupart de nos chiens, c'est des chiens qui survivent comme ils peuvent et qui sont plus ou moins nourris par des gens, mais qui en fait ont besoin d'avoir un lieu sûr loin de la fourrière. Et c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal d'aide, notamment au Maroc, il y a tout un système avec beaucoup de gardiens de parking, de gardiens d'immeubles. Et c'est vrai que ces gens ont une relation assez fusionnelle avec les chiens, parce que souvent ils les voient naître, ils les voient grandir, c'est aussi une protection pour eux. Et on voit souvent de très belles scènes où ils partagent leur repas avec eux, mais face à la fourrière, ils ne peuvent absolument rien faire. Ils ont beau s'époumoner, appeler à l'aide, ils sont comme nous, ils sont dénués de toute possibilité d'action. On aimerait quand même, nous, travailler sur les collaborations, que ce soit avec des marques de croquettes, avec des grosses associations comme 30 millions d'amis ou la Fondation Brigitte Bardot. Mais en fait, il y a un tel besoin partout dans le monde que du coup, ils sont dans l'obligation aussi de choisir et de faire au mieux. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de proposer de plus d'initiatives possibles pour ne pas être dépendant du gouvernement ou de grosses associations.
Tu as déjà parlé un peu de moyens de soutenir, les dons, etc. Qu'est-ce que tu penses peuvent faire les étudiants et étudiantes de Lyon et de France pour soutenir vos actions ?
Il y a toujours, ce que je disais, un peu la possibilité de faire des dons. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une cagnotte Cotisup qui sert exclusivement pour nos frais vétérinaires. On a pas mal de stérilisations et de vaccins à faire. Après, on propose aussi le parrainage de nos chats et nos chiens. C'est simplement donner chaque mois une certaine somme d'argent pour en fait devenir parrain de l'animal, lui donner un nom s'il n'en a pas et avoir en fait des nouvelles régulièrement. Et ensuite, voilà, ce qui est vraiment le mieux pour nous, c'est l'adoption. Donc on organise des adoptions à l'étranger, adoptions qui ne sont pas plus chères, contrairement un peu aux idées reçues, que d'adopter par exemple en SPA. Moi, j'ai le très bon exemple d'avoir adopté mon premier chat en SPA en France et mon deuxième du coup au Maroc. Et même avec le prix des billets d'avion, ils me reviennent exactement au même prix. Ensuite, on a aussi la possibilité d'accueillir des bénévoles pour des stages plus ou moins longs que l'on peut loger au sein de l'association pour faire les promenades, les nourrir, etc. On a vraiment besoin, nous, en ce moment, de médicaments antiparasitaires et de vermifuges. Et donc, on a tendance à faire des collectes, notamment en France et dans les pays européens où les gens peuvent nous envoyer, par exemple, les NESGARD ou les colliers, ces restos, ce genre de choses, directement au Maroc, parce que les prix en France sont beaucoup moins onéreux. Et enfin, on cherche toujours des collaborations avec des marques, des associations, en fait un peu n'importe qui. Et donc enfin, si vous voulez nous aider, on a aussi une page Instagram, une page TikTok et une page Facebook donc, qui s'appelle Pan Marrakech, P-A-N et Marrakech comme la ville. Donc vous pouvez vous abonner et suivre un petit peu nos aventures tous les jours et voir les animaux qui sont à l'adoption. On a aussi un site internet qui explique un petit peu l'histoire du refuge et sur lequel vous pouvez voir les différentes manières de nous aider et les numéros à contacter dans le cas où le bénévolat pourrait vous intéresser.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui.
Merci à toi.
C'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.